L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Deux invités de la rédaction ce matin, Sylviane Prêcheur, vice-présidente de l'association Autisme Aujourd'hui, et Rodolphe Weissard, membre fondateur, ils sont d'ailleurs tous les deux membres fondateurs de l'association strasbourgeoise. À quelques jours, c'est passé aujourd'hui, de la journée mondiale de l'autisme, l'association strasbourgeoise fête ses 10 ans de combat pour faire reconnaître ce handicap et l'inclure dans notre quotidien. Alors plusieurs actualités, la sortie d'une musique et d'un clip, et également un stand d'information comme chaque année. Ça, c'est au centre commercial Rive Étoile, le 5 avril. Un stand d'information pour le grand public. Alors, bonjour à tous les deux pour commencer.
Bonjour.
Aujourd'hui, il est besoin d'informer. Alors, on a l'impression que ce mot autisme, il regroupe énormément de choses, mais qu'au bout du compte, pas grand monde ne sait de quoi il en est exactement. L'autisme, c'est un terme général qui désigne un handicap, mais dans ce terme, il y a évidemment plein de gens, de maladies et de niveaux d'atteinte d'autisme. Alors, je suis un petit peu maladroit dans mes mots, c'est très précis. Alors, on va vous laisser nous expliquer tout cela, Sylviane Prêcheur.
Alors, l'autisme, aujourd'hui, il y a un consensus pour parler. Alors, on parle d'autisme parce que c'est plus simple et plus compréhensible, mais on parle surtout de troubles du spectre de l'autisme. Et le mot spectre est important, justement, puisqu'il vient représenter cette pluralité de formes d'autisme. On dit souvent qu'il y a autant de formes d'autisme qu'il y a de personnes autistes. Il y a effectivement des personnes qui ont des très bonnes capacités et compétences d'adaptation à la vie sociale, mais qui peuvent avoir d'autres types de difficultés dans la communication, dans l'organisation, etc. Et puis il y a des personnes à l'autre bout du spectre qui peuvent être avec leurs troubles du spectre de l'autisme associés à une déficience intellectuelle et être beaucoup plus en difficulté justement dans l'adaptation, dans l'expression, dans la communication. Donc on parle d'un spectre parce que effectivement ça recouvre une multitude de formes d'autisme. Mais ce qui reste commun à l'ensemble de ces personnes, ce sont des signes cliniques, des manifestations concrètes au niveau visibles, qui sont en général une altération de la communication et des interactions sociales, qui peut être effectivement plus ou moins importante, hein, et des centres d'intérêt assez restreints ou répétitifs.
Il y a aujourd'hui des personnes atteintes du spectre autistique, on va utiliser les bons termes, vous avez tout à fait raison, qui l'ignorent, qui peuvent se découvrir même à l'âge adulte.
Absolument. La majorité des diagnostics se font en moyenne entre 3 et 5 ans. La France a encore des efforts à faire, mais en a fourni déjà pour le diagnostic précoce. Et effectivement, il y a des adultes qui repèrent dans leur vie des difficultés particulières et à un moment donné se questionnent sur le pourquoi de ces difficultés et qui font la démarche de diagnostic à l'âge adulte, effectivement.
Vous en parliez du problème d'interaction sociale. Ça, c'est toujours un trait commun à tous ces spectres autistiques.
Oui, ça peut l'être et de façon plus ou moins importante. Hein. Ce qui peut être... Alors, il y a des personnes qui, effectivement, vont avoir des petites particularités, vont peut-être avoir du mal simplement à regarder les gens dans les yeux et puis dans leur vie sociale, pouvoir avoir un réseau amical, un réseau familial, être parent en compensant un petit peu leurs difficultés. Mais ce qui peut être parfois aussi variable et important, c'est ce qu'on appelle nous aujourd'hui les particularités sensorielles, c'est-à-dire un rapport au monde à travers leurs sens qui peut être un peu altéré avec des hypersensibilités ou des hyposensibilités qui peuvent se compenser avec des petits outils et des petites stratégies. Mais voilà, donc effectivement, les difficultés d'interaction sociale existent, hein, mais elles sont là aussi, j'allais dire, nuancées en fonction des personnes. Et certaines personnes peuvent tout à fait vivre une vie sociale avec ces petites compensations.
Avec une scolarité, une famille, vous le disiez.
Un métier, une famille, absolument.
Aujourd'hui, dans les traitements, dans les thérapies, on parle effectivement de traitements ou de thérapies. Quel est le médecin ou le spécialiste qui va prendre en charge la personne atteinte de troubles?
Alors, il y a déjà le pan, j'allais dire, du diagnostic. Le pan du diagnostic est assuré en général par un médecin. Le diagnostic se pose par un médecin. Il peut être accompagné par une équipe pluridisciplinaire qui va proposer à la personne un certain nombre d'évaluations et discuter avec elle ou avec les membres de sa famille, les personnes qui la connaissent bien déjà pour repérer. Donc ça, c'est l'aspect diagnostic qui repose sur des critères assez standardisés, on va dire. Une fois le diagnostic posé, il y a effectivement la question de la suite. Comment est-ce que dans ma vie, je continue à avancer et à vivre une vie de qualité pour moi? Et là, il peut y avoir besoin de s'appuyer sur effectivement des thérapies, des approches assez diverses, mais qui sont aujourd'hui, certaines d'entre elles sont recommandées par la Haute Autorité de Santé, qui sont des approches qui vont travailler davantage sur l'habituation à des situations compliquées, sur l'apprentissage de conduite, de codes sociaux, sur le repérage aussi des particularités sensorielles qui nous sont propres, peut-être une hypersensibilité à la lumière qui va nécessiter peut-être de porter une casquette, des lunettes dans certaines situations, même à l'intérieur, parce qu'on peut être embêté par des néons et des choses comme ça. Vous voyez, donc c'est finalement tout un tas d'équipes pluriprofessionnelles qui peut accompagner, et pour des problèmes de communication, ça peut être des orthophonistes. Donc, il peut y avoir une pluralité comme ça de professionnels qui peuvent accompagner la personne à trouver des adaptations pour elle ou à penser des aménagements dans l'environnement, que ce soit dans le milieu professionnel aussi. Il peut y avoir des entreprises qui peuvent faire appel aussi à des relais pour réfléchir à l'aménagement, et à la personne, bien sûr, pour réfléchir à l'aménagement d'un poste de travail, de conditions de travail, de temps nécessaire, de régulation, c'est-à-dire de pouvoir se mettre ses sens au repos pour pouvoir après être efficace dans le travail par la suite, etc. Oui.
Votre association, créée il y a 10 ans, aujourd'hui, elle a été créée sur une volonté commune. Vous êtes tous les deux membres fondateurs. Vous êtes, vous, touché par une personne dans votre entourage, ou peut-être vous, parce que vous le disiez, ce sont des gens qui peuvent avoir des interactions sociales tout à fait normales. Elle est née de quelle volonté, cette association, Rodolphe Aïssard?
Alors, en fait, cette association, au départ, elle s'est créée sur une idée un peu, comme on a souvent, une idée un peu folle. En fait, moi, j'étais moniteur éducateur, je travaillais auprès de jeunes autistes, et puis dans cet établissement du quartier de Cronenbourg, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qui se passait pour la journée de l'autisme, le 2 avril, alors qu'on voyait sur les réseaux à l'époque que, surtout principalement aux États-Unis, les associations se mobilisaient pour éclairer des bâtiments célèbres dans leur ville en bleu. Et on s'est, un matin, en prenant un café ou je sais plus quoi, on s'est dit, on va faire en sorte que la cathédrale soit illuminée en bleu. Et c'était en quelques jours, il fallait qu'on se dépêche. Et puis, on n'a pas obtenu la cathédrale, mais on a réussi à faire illuminer le centre administratif Place de l'Étoile. Et voilà, et on a organisé notre première photo, on s'est fait des t-shirts bleus, et c'est comme ça qu'est née cette histoire. Et on a continué comme ça, en grandissant, en prenant des statuts, en s'organisant un peu plus normalement.
Donc, en vous organisant, l'idée, c'est d'avoir des réunions, c'est peut-être d'accueillir également peut-être des parents ou des personnes atteintes de spectre autistique et de leur donner des pistes, parce que ça doit être très désemparant, en fait, d'apprendre effectivement que son enfant ou qu'un proche est atteint. Vous donnez, vous, des pistes pour encadrer au mieux la personne qui en a besoin?
Alors, oui et non, dans le sens où notre association est une association qui est constituée par des familles et des professionnels et des gens qui se sentent concernés, d'accord? Et l'objet principal de notre association est parti aussi des observations des uns et des autres, professionnels comme parents, que parfois dans les sorties, dans les lieux communs, généraient dans le regard des personnes alentours, quand il y avait des comportements un peu particuliers de la part des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes, des regards interrogateurs, parfois jugeants. Donc c'est aussi de ça que c'est parti, c'est-à-dire on s'est dit, mais finalement, le grand public ne connaît pas bien l'autisme, vous parliez de connaissance au début, et l'association se donne essentiellement pour mission de faire connaître l'autisme au grand public, avec un idéal, c'est de combattre un petit peu les préjugés et de favoriser autant que faire se peut l'inclusion des personnes autistes. Et du coup, c'est comme ça qu'on est parti. Alors, c'est vrai que maintenant, depuis 10 ans, on est régulièrement sollicité par des familles qui nous disent, ben voilà, il y a eu un diagnostic, ou par des adultes qui nous disent, ben voilà, je suis diagnostiquée, mais maintenant, vers qui, vers quoi je me tourne, etc. Et on a la chance d'être inscrit aujourd'hui, au bout de 10 ans et au fur et à mesure des années, dans le réseau, j'allais dire, dans le réseau professionnel autour de l'autisme dans le Bas-Rhin, et d'avoir des liens et des contacts, que ce soit, ou en tout cas des noms, à communiquer aux familles, que ce soit dans le cadre de l'éducation nationale avec les enseignants référents, que ce soit dans le cadre du centre ressources autisme qui peut proposer soit des démarches diagnostiques, soit des démarches d'accompagnement avec différentes autres instances qui soit les groupes d'entraide mutuelle. Enfin voilà, on est inscrit un petit peu dans ce réseau-là et on est plutôt force de relais plutôt que de conseils et surtout pas de prise en charge, puisque je vous dis l'objet de l'association étant vraiment la démarche de sensibilisation du grand public à l'autisme.
Et de rencontres entre les parents d'enfants atteints d'autisme, justement parce que souvent, ils ont des questions, mais c'est simplement souvent besoin d'un échange. Et vous parliez de stigmatisation, ça permet de se sentir moins seul.
Absolument. Un effet de notre grande journée de sensibilisation à l'autisme, celle qui se passe donc samedi 5 avril au centre commercial Rive Étoile, un effet qu'on n'avait pas du tout imaginé au démarrage, c'est qu'il y a des familles qui viennent, qui reviennent d'année en année et qui se retrouvent et qui échangent ensemble dans un esprit qu'on a toujours voulu et qui est vraiment le propre de notre association, très convivial, très dynamique, très joyeux, comme le disait tout à l'heure Rodolphe. Et c'est vrai que il y a une vraie envie de la part de ces familles de se rencontrer, de se retrouver, de partager. Et il nous arrive souvent de proposer, enfin que les parents membres de l'association proposent un échange avec une autre famille sur une thématique particulière qu'elles ont traversée elles aussi.
Oui. Est-ce que aujourd'hui ce terme d'autisme est dédramatisé parce que avant il y avait quelque chose de très excluant, effectivement, de la société? C'est, on avait un enfant, j'allais dire presque au même titre qu'un enfant trisomique 21, atteint de trisomique 21, qui aujourd'hui est totalement inclus dans la société, souvent à l'école, selon, évidemment, le spectre de son handicap, de la même façon. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ce terme est utilisé à bon escient et qu'ils sont totalement inclus dans les citoyens lambda? Alors, évidemment, aujourd'hui, par les associations et les autorités compétentes totalement, et par les gens de bonne volonté comme vous. D'ailleurs, on vous en remercie. On reviendra après vers vous, Madame Prêcheur, pour avoir vous votre motivation d'engagement dans cette association. Quel est vous votre sentiment à cette inclusion?
Ah, moi, mon sentiment, je pense qu'il y a des choses qui ont bougé. C'est clair que les médias ont fait beaucoup, et puis la Journée mondiale de l'autisme pour donner une autre image de l'autisme, mais les stéréotypes restent quand même très profonds, très ancrés.
C'est quoi les stéréotypes selon vous?
De la personne qui ne sait pas parler, de celui qui est seul dans son coin, de celui qui est inéducable. C'est parce qu'effectivement, il y a des difficultés et que, en fait, peut-être une des difficultés, c'est que justement, c'est cette notion de spectre qui fait que les gens, des fois, ont une référence sur une situation qu'ils connaissent et puis ils généralisent tout l'autisme par rapport à cette situation. Et que comme l'autisme est peut-être plus complexe, plus divers, forcément, c'est pas facile à comprendre.
Pour revenir à l'historique de l'autisme, ça fait 10 ans votre association, ça fait peut-être un petit peu plus longtemps qu'aujourd'hui. C'est un mot qui est utilisé dans les émissions, dans les médias, vous en parliez, dans les journaux, dans les revues spécialisées. Mais avant cela, il y avait une omerta, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on ne traitait pas. Moi, j'ai le souvenir du film Rain Man des années 80, 84-86, dans ces eaux-là, qui montrait le lien entre deux frères dont un était atteint d'autisme, dont on ne donne jamais le générique de cette maladie à aucun moment. On voyait juste la relation qui se construisait petit à petit. À quel moment on a pris conscience ou c'est rentré dans le langage courant, Madame Prêcheur?
C'est une très bonne question.
Selon vous, toujours.
Oui, alors Dans la nomenclature hein, autour de l'autisme, il y a une classification internationale qui s'appelle le DSM, hein, qui en est aujourd'hui à sa 5e édition. En particulier, c'est la version révisée en plus, là dernièrement. Et en fait, l'autisme s'est promené dans les différentes versions des DSM et des nomenclatures. Effectivement, l'autisme a eu une histoire un peu, étant pendant un temps classé comme une maladie. Une maladie qui relevait de la maladie mentale et puis a évolué vers des troubles qui généraient des situations de handicap, donc tranquillement a évolué vers le handicap puisqu'on ne guérit pas de l'autisme, hein. On peut compenser les difficultés mais on n'en guérit pas. Et puis passé, j'allais dire, en fonction des courants de pensée aussi, hein, a évolué aussi en fonction des courants de pensée. Maintenant, c'est aussi les recherches qui ont permis de faire avancer aussi la connaissance. Hein, la connaissance de ce trouble qui aujourd'hui est considéré comme un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que c'est sur le plan neuronal qu'il y a des particularités. Et l'autisme est aujourd'hui regroupé dans ce grand chapeau des troubles neurodéveloppementaux. Donc le DSM aujourd'hui le désigne comme ça, parmi d'autres troubles neurodéveloppementaux, comme les troubles de la déficience intellectuelle, les troubles 10, les troubles de l'apprentissage, etc. Donc voilà. Donc c'est effectivement dans l'histoire, j'allais dire, l'autisme était effectivement plus ou moins connu. Et plus ou moins parlé, plus ou moins identifié. Et c'est vrai que les premières représentations, j'allais dire cinématographiques, sont effectivement celles que vous avez décrites, hein, de Redman. Et tout à l'heure, Rodolphe parlait des représentations qu'on peut se faire. Mais il y a aussi, au-delà de celles de ceux qui ne savent pas parler, qui ont des conduites bizarres, qu'on ne comprend pas, il y avait aussi cette image longtemps véhiculée des génies. Voilà, donc
C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans Rain Man quand il apprend le bottin par cœur.
Absolument, absolument. Alors c'est vrai que certaines personnes autistes ont des îlots de compétences très poussés dans des domaines variés qui peuvent être l'informatique et d'autres domaines, mais aussi aujourd'hui ce qui quand même évolue dans la représentation ou dans la connaissance, c'est qu'il y a aussi des gens tout à fait lambda qui ont des compétences intellectuelles tout à fait ordinaires, enfin dans la moyenne, mais avec des petites particularités. Et je crois que le fait d'en parler, le fait maintenant d'avoir avancé dans les recherches, dans la connaissance des particularités, des modes de fonctionnement spécifiques au niveau du cerveau, voilà, nous amène tout doucement à pouvoir en parler de façon plus précise, hein, claire, hein, et finalement au fur et à mesure, parce qu'il y a eu d'autres films après celui de Redman, hein, qui essayent aujourd'hui d'être au plus juste, hein, et des séries d'ailleurs plus récentes, hein, qui essayent d'être au plus juste de ce que comment peut fonctionner ou comment peut vivre une personne autiste.
Madame Prêcheur, j'ai posé la question à Rodolphe Weissart. Vous, votre motivation, qu'est-ce qui vous a fait vous engager dans cette association précisément ?
Eh bien, c'est la raison que je vous ai donnée avant, c'est-à-dire cette envie d'essayer de mieux faire connaître ce handicap. Moi, je suis à la base, je travaille avec des personnes autistes. J'ai travaillé quelque temps avec Monsieur Weissart et je continue. Je continue à travailler avec des personnes autistes, avec des familles. Je vivais et j'entendais parler mes collègues et les familles des situations, effectivement, de stigmatisation qui nous semblaient profondément injustes. Et je crois que ce qui nous relie tous au sein de l'association, c'est cette volonté un peu d'humanité, enfin, en tout cas de retrouver quelque chose d'un mouvement à la fois solidaire et en même temps humain. Dans ces rencontres qu'on a grâce à cette association. Et je crois que ça doit répondre à quelque chose chez nous, puisque ça fait 10 ans et on y est toujours et on a toujours envie et plein d'idées encore.
Bravo, bravo à tous les deux. On va juste terminer cette interview en parlant de cette journée, de ce stand d'information que vous allez tenir au centre commercial Rive Étoile à Strasbourg. Vous y êtes de quelle heure à quelle heure? Qui peut venir et de quelle façon vous allez échanger et interagir?
Ouais, mais je vais essayer de vous expliquer tout ça. Mais je compléterai ce que Sylviane a dit sur notre volonté. Je crois que oui, c'est vraiment la solidarité. Nous, ce qu'on essaye de mettre en scène, c'est proposer aux gens de montrer leur solidarité à l'autisme. C'est pour ça qu'on fait une opération qui s'appelle les cœurs bleus, où on demande aux gens de saisir d'une action qu'on présente comme un concours, c'est-à-dire bricoler des cœurs bleus, les prendre en photo et les diffuser sur les réseaux. Et le pourquoi de ça, c'est comme ça vous pouvez montrer votre solidarité. Et
dans ce cadre-là, vous avez créé une chanson que vous avez sortie là tout récemment, le 2 avril.
Oui, mais c'est vraiment dans nos habitudes. On organise des rendez-vous où on se prend en photo ensemble, où on danse ensemble. Et excusez-moi. Et dans le prolongement de tout ça, on s'est dit, ouais, on va faire une chanson. Et l'idée, c'est, voilà, on vous offre une chanson, elle parle d'autisme, elle est positive. Alors bien sûr, il y a toujours des difficultés, mais on a envie de dire que des choses sont possibles. Et cette chanson, on l'a créée pour ça. Tenez, faites la tournée, écoutez-la, chantez-la. C'est notre manière de faire.
Le titre de la chanson ?
Alors, elle s'appelle « Tu nous émerveilles ».
C'est beau, ouais, ça veut tout dire, hein. Bien trouvé. Et les interprètes ?
Alors, d'abord, elle a été composée et écrite par Samuel Olivier, qui est un fidèle auteur des Gospel Kids. Et ensuite, bon, moi, étant musicien, j'ai réussi à fédérer des musiciens qui veulent rester discrets, qui veulent pas se mettre en avant. En tout cas, c'est que des interprètes de la région. Et pareil, le clip a été tourné par, c'est un clip en image 3D qui a été offert par une boîte de com de Oberhausbergen. Et tout ça, ça s'est fait dans nos liens en disant, ouais, est-ce que tu connais, est-ce que tu pourrais m'aider. Et cette chanson s'est faite très vite et je trouve qu'elle est plutôt sympa. Et en tout cas, elle a bien fonctionné là le 2 avril dans nos réseaux.
Tu nous émerveilles, donc évidemment on vous la mettra sur nos réseaux également, Facebook, Instagram, pour la faire connaître. Alors il nous reste deux petites minutes, on va parler de ce stand de Rive Étoile que vous tenez vendredi. Qu'est-ce qui va se passer ?
Bah déjà,
samedi, excusez-moi.
Qui va être samedi. Venez à Rive Étoile. En fait, nous on tient un stand avec une partie qui est information et puis... de l'information disponible sur l'autisme où on peut rencontrer des gens, discuter. On essaye de créer des espaces de rencontre et puis plein de petites animations. Il y a des petits coins coloriage pour si les parents ont envie de discuter d'autisme et puis que les enfants doivent attendre, autant attendre en faisant un petit coloriage. Et puis on aura des chanteurs, il y aura Michel Grimaldi qui va chanter plusieurs fois, on aura un de nos proches qui s'appelle Mroli qui va jouer du piano, il y aura un magicien, il y aura des gens pour faire du maquillage, il y aura des animations ludiques.
Donc c'est festif, tout ça, c'est ludique, vous le disiez.
C'est festif, c'est joyeux, et voilà, on essaie de se mettre en bleu, de sourire et d'attirer les gens, et puis de renvoyer cette image positive.
Bah écoutez, rendez-vous est pris, donc ce samedi 5 avril, de quelle heure à quelle heure ?
Ah, on sera toute la journée, de 8h à 18h il me semble, on va quand même arrêter au bout d'un moment. Et voilà, on sera au niveau moins 1.
Le rendez-vous est pris. Merci à tous les deux. Je rappelle Sylviane Prêcheur, vice-présidente de l'association Autisme Aujourd'hui, Rodolphe Weissard, membre fondateur, tout comme Sylviane Prêcheur. Merci à tous les deux d'être venus nous parler aujourd'hui de l'autisme, de ce clip qui vient de sortir, de ce stand que vous allez tenir et de toutes vos belles actions que vous mettez en avant. Et pour ça, moi, je vous remercie.
Merci.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.